Chapitre 3. Elle se déchaîne. Le 23 décembre, après le repas, tout le monde s'assembla au fond de la salle commune pour assister à un duel fort attendu. J'allais affronter mon frère devant tous, et je n'en menais pas large. Gunnar, plus grand et plus fort que moi, pratiquait les armes depuis longtemps. J'avais pour ma part peu d'expérience, ne possédant qu'un titre de gloire, une certaine habileté au tir à l'arc. Je ne décrirai pas ce combat contre mon frère, qui fut l'un des pires moments de ma vie. Gunnar, sans pitié, me pulvérisa. Mon épée mordeuse me sauta à 3 reprises des mains et je me retrouvai par 2 fois les 4 fers en l'air. La lame de mon frère, recouverte comme la mienne d'étoffe épaisse, ne pouvait trancher ni piquer. Je m'en sortis donc avec des bleus au corps et surtout à l'âme. Car ma déconfiture avait été publique. Mon père, que j'admirais tant, à qui je rêvais de ressembler un jour, avait pu constater quel piètre guerrier j'étais. Mes joues brûlaient de honte, et je me souviens que pour la première fois de ma vie, je détestais Gunnar. Je trouvais cependant un peu de réconfort dans les yeux de certains spectateurs, ma mère, ma petite sœur, et aussi le demi-troll d'Izir. Je remarquai également une larme sur la joue de Sigrid, l'aînée des muettes. Ainsi cette pauvre fille éprouvait de la sympathie pour moi, et je l'ignorais. « Demain, je donnerai une leçon à mes fils, » annonça mon père en se levant pour gagner sa chambre. « Désir et moi, nous vous montrerons comment tenir une épée. » Gunnar pâlit à ces mots, car notre père semblait ne faire aucune différence entre nous deux, entre le vainqueur et le vaincu. J'étais un peu vengé. Le lendemain, c'était Noël. Maman nous raconta la naissance de Jésus-Christ, tandis que mon père, tournant ostensiblement le dos à l'assemblée, poursuivait l'écriture de ses mémoires. De temps à autre, il s'interrompait pour rire du récit de son épouse qui ne bronchait pas. Maga, les sœurs muettes, Inge et moi-même étions fascinés par l'histoire du fils du dieu chrétien. Le demi-troll d'Izir, pour sa part, pleurait d'émotion. « Comme j'aime cette femme, cette Marie » s'emballa-t-il. « J'aurais voulu la connaître encore plus que son petit Jésus. Parole de moi, j'aurais été son confident. » « Il n'y a pas de place dans la vie des dieux pour les puants dans ton genre, » railla Dron le berger. Lui et Harry le pêcheur gardèrent une attitude réservée pendant le récit de maman. Mais je voyais bien qu'ils écoutaient avec attention. Le seul à se tenir à l'écart, à part mon père, fut Gunnar. Il aimait bien ne pas faire comme tout le monde. Je pense aussi qu'il voulait plaire à papa. Quand ma mère eut fini, Eric se leva bruyamment. « Et maintenant, passons aux choses sérieuses, » dit-il. « La leçon !» Prendre les armes en un jour pareil tenait du sacrilège, assurément. Mais mon père se souciait peu des fêtes chrétiennes, et il lui plaisait sans doute de choquer maman. Celle-ci, comme à son habitude, resta de marbre. Les hommes de la maison suivirent mon père au fond de la salle. Leur excitation était grande. Voir Eric manier l'épée, la chose vaudrait la peine. Mon père comptait parmi les meilleurs combattants du pays. Aucun homme saint d'esprit ne l'aurait affronté sans frayeur, et Arad lui-même, notre roi, le craignait. Le demi-troll d'Izir semblait calme pourtant, en s'approchant de son maître l'épée à la main. « Sans doute doit-il transir à l'intérieur, » pensais-je. Le combat commença à l'âme nue. Et là, déception. Pas de duel, pas d'affrontement authentique. Nous assistions à un spectacle aussi calme et déprimant qu'une leçon de calcul. Avec des mouvements de marionnette, mon père et d'Izir nous montrèrent plusieurs bottes courantes et la manière de se tenir bien ferme sur ses jambes. Nous apprîmes le nom de chaque partie d'une épée, comment on la forge et d'où viennent les meilleurs. Gunnar était consterné, moi aussi, ce qui amusa beaucoup Harry le pêcheur. C'est alors que mon père nous considéra, nous, ses fils, avec un air grave et, je crois, une certaine émotion. « Mais tout cela ne vaut pas tripette, » déclara-t-il. « Les leçons, ça ne sert à rien. Une chose compte avant tout, le sang-froid. Toi, Gunnar, « continua papa en se tournant vers mon frère. « Tu as le sang trop chaud. Il faudra te calmer. Absolument. » Le regard qu'il me lança ensuite était sévère. « Quant à toi, Bjorn, c'est plus grave. Tu n'as pas assez de sang. » Une manière polie de dire que je manquais de vigueur, que j'étais mou. Mon cœur se serra. Le combat contre Gunnar n'avait fait qu'augmenter ma répugnance naturelle pour les armes et la violence. Or, comment gagner l'estime de mon père, homme brave par excellence, dans ces conditions? Mieux valait y renoncer tout de suite et apprendre à vivre avec cette idée je ne serai jamais l'égal de Gunnar dans le cœur d'Eric. La nuit de Noël fut terrible. Des heures durant, la neige se déchaîna. Notre pauvre maison grinçait de douleur, se débattait sous l'étreinte. Nous étions secoués comme des marins en cale une nuit de tempête. Ma petite sœur et moi, nous nous serrions l'un contre l'autre, terrorisés, tandis que Maga récitait des prières étranges, mi-païennes, mi-chrétiennes. Nous restâmes tous ensemble dans la salle commune, quelque peu rassurés par la présence de mes parents, apparemment calmes. Gunnar seul demeura dans son lit cette nuit-là. « Laisse-moi dormir, je suis fatigué !» grogna-t-il à Désir, parti le chercher à la prière de maman. Comme si l'on pouvait dormir une nuit pareille. Gunnar faisait le fier, voilà la vérité, et mal lui en prit, car nous le retrouvâmes au matin sous une poutre, sa couche presque entièrement recouverte de tourbe et de poussière. Le plafond de la chambre des enfants avait cédé en deux endroits, mais sans que la neige eût réussi à se frayer un passage à l'intérieur. Un vrai miracle. « Mon petit !» hurla maman, craignant le pire. Mais Gunnar était vivant, mal en point, mais vivant. Les autres chambres aussi avaient souffert. Plusieurs murs donnaient des signes de fatigue. Chez mes parents et dans la pièce des serviteurs, un vent glacé entrait par 100 fissures nouvelles et inquiétantes. Notre réserve à nourriture, quant à elle, s'était déplacée d'un bon pied vers l'ouest, et ses murs penchaient tous dangereusement. Pendant que nous mesurions l'étendue des dégâts, Drôn le berger poursuivait Désir de méchants regards, comme si le demi-troll était responsable de la situation. Nous décidâmes de transporter les lits et les vivres dans la salle commune. Le reste de la maison fut condamné. Avant de fermer les portes pour de bon, nous récupérâmes tout matériau capable de renforcer encore les quatre murs qui nous restaient. Il allait falloir se supporter nuit et jour, et cela pendant des mois peut-être.